Radio Okapi.
Il est 12h à Kinshasa, le journal Jacques-Yves Boliman.
Les casquets bleus de la MONUSCO assurent la protection d'environ 120 000 déplacés dans les différents sites dans les territoires de Djougou. À Boulé, par exemple, plusieurs hectares de champs entourent la base de la MONUSCO où travaillent quotidiennement sans aucune inquiétude des déplacés et des autochtones. 34e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'Assemblée nationale a voté hier jeudi, nonobstant la demande d'un débat sérieux sur la question des députés de l'Ituri et du Nord Kivu. Débat évité par une motion de procédure du député Prosper Boukassa. Enfin, signature des contrats ce jeudi 6 octobre ici à Kinshasa entre la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFEF, et les entreprises soumissionnaires. C'est dans le cadre de la mise en œuvre du projet de 145 territoires. Pour en parler, nous recevons dans cette édition du journal Alain Lugungu, le coordonnateur national des CFEF. Voilà tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, bonjour. En Ituri, les casquets bleus de la MONUSCO assurent la protection d'environ 120 000 déplacés dans les différents sites dans les territoires de Djougou. À Boulé, par exemple, plusieurs hectares de champs entourent la base de la MONUSCO où travaillent quotidiennement sans aucune inquiétude des déplacés et des autochtones. Au site de Djaïba et Djina, les abris des déplacés sont construits à partir de 10 mètres des installations des forces onusiennes où les familles des déplacés passent des jours paisibles que dans leur village d'origine. Isaac Remoyopé.
Ces personnes déplacées composées essentiellement des femmes et des enfants sont concentrées autour des bases de la MONUSCO. À Boulé, elles sont estimées à plus de 80 000 personnes disséminées dans 3 sites. D'autres sont installées à Djaïba et à Djina. Pour se déplacer, leur survie dépend exclusivement des casques bleus qui les protègent contre les attaques des miliciens de la Codeco qui ciblent souvent leurs sites. Dans tous ces endroits, cette phrase revient sur toutes les lèvres, je cite, « Sans la MONUSCO, on ne pourrait vivre ici. » Pour eux, il n'est pas question que les casques bleus quittent leur milieu jusqu'au rétablissement total de la paix. Une femme à Boulé témoigne.
C'est à cause de MONUSCO que nous restons ici à paix. Grâce à ces gens-là que moi aussi je m'habite à paix. Si ils partent, moi aussi je pars d'ici. À cause de la sécurité, la MONUSCO, si on dit déjà quelque chose qui ça ne va pas, il intervient directement.
Selon la société civile de la chiffrerie de Badjéré, beaucoup de déplacés seraient morts sans la présence de la MONUSCO qui intervient chaque fois pour sauver des vies humaines. Malode a désiré son coordonnateur.
Il y en a eu dans les sites de Plaine Savo ici. La MONUSCO est intervenir lorsque les assaillants sont venus pour mettre des forfaits dans ce site-là. Ni était l'intervention de la MONUSCO, les gens allaient tous mourir dans cette région.
Signalons que la présence des casques bleus de la MONUSCO rassure également la population dans tous ces villages contre les menaces des groupes armés. Déboulé, Isakare Moyope, Radio Okapi.
À Butembo, les militaires FRDC ont déjoué la nuit dernière une attaque des miliciens Maïmaï, non autrement identifiés, contre leur position située sur la colline Mounzambaye, dans la commune Vulamba. Une situation à la base des détonations d'armes est attendue aux environs de 23 heures locales dans cette partie, située au nord-ouest de la ville. Le commandant urbain des FRDC à Butembo confirme la nouvelle et indique qu'aucune perte en vies humaines n'a été enregistrée. Le colonel Mosebo Epape Masebi appelle toutefois la population à la vigilance et à la dénonciation de tout cas suspect afin de permettre à son service de bien jouer son rôle, celui de protection des personnes et de leurs biens. La situation s'est vite rétablie grâce à l'intervention de ses troupes qui ont déjà pris le contrôle de la zone, ajoute-t-il. Face à cette situation, la société civile de la commune Vulamba appelle les autorités au renforcement des mesures sécuritaires dans ce coin de la ville, parfois la cible de groupes armés. Et puis au sud Kivu, sensibiliser les présidents fédéraux des partis politiques en vue des élections prochaines et sur le rôle de la MONUSCO, c'est l'essentiel d'une rencontre organisée à Bukavu ce jeudi 13 octobre 2022. Activité de la section affaires politiques de la MONUSCO Bukavu dans l'objectif de mettre en exergue les défis auxquels font face les partis politiques dans l'organisation des élections, mais également l'appui de la MONUSCO à cet effet. Le point avec Rachel Kessembango.
Cette activité a réuni les représentants des différentes couches sociales de la province du Sud-Kivu sur la paix et la cohésion sociale. Un des orateurs, Monseigneur Joseph Guamouanya, a développé le thème sur le rôle que peuvent jouer les jeunes pour asseoir le vivre ensemble et la cohabitation pacifique. Il propose la création du service national qui permettra de brasser les jeunes de toutes les tendances en leur apprenant la défense nationale et les métiers.
Il faudrait que cette jeunesse soit accompagnée pour la construction de la paix et de la citoyenneté à travers une formation professionnelle qui leur permette de faire quelque chose dans leur vie, parce que le chômage, c'est une source de beaucoup de maux dans ce sens, des vertus que nous pouvons faire acquérir aux jeunes et qui serviront à construire une société plus juste.
Un autre orateur, Herman Fabrice Vanni, de la section droits de l'homme MONUSCO, a défini le concept discours de haine comme étant tout type de communication qui constitue une atteinte à celui qui utilise des mots péjoratifs. Notons que cette activité a bénéficié de l'accompagnement de la MONUSCO Bukavu à travers sa section de l'information publique. Bukavu, Jean-Baptiste Ntonga, Radio Okapi.
Vous avez compris, Jean-Baptiste Ntonga nous parlait de la table ronde sur la cohabitation pacifique et la lutte contre les discours de haine. L'Assemblée nationale a autorisé hier jeudi, sans débat, par une majorité de 383 sur 386 députés présents, la 34e prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord-Kivu. Après présentation du projet de loi portant prorogation de l'état de siège par la ministre de la Justice, les députés du Nord-Kivu et de l'Ituri ont insisté sur la nécessité d'engager un débat sérieux avant toute prorogation de l'état de siège. Cependant, la motion de procédure du député Prosper Bukassa a eu le mérite d'éviter tout débat sur la question marquée du caractère hautement sécuritaire. On écoute ici le président de la commission défense et sécurité qui a soutenu la motion. Bertin Mubozi est au micro de Michel Kifindangoy.
Nous sommes en guerre et ça nécessite une attitude responsable. Je ne comprends pas si c'est ici que nous devons étaler la gestion des prisonniers de guerre. Et je voudrais revenir sur la réunion que nous avions tenue hier avec le chef de l'État. Donc lorsqu'on parle d'une table ronde qui va se tenir avant la fin du mois de novembre, en fait, il faut préciser qu'elle a commencé hier, à partir de cette réunion pendant laquelle tous les collègues ont eu toutes les informations nécessaires. Nous avons un nouveau chef à la tête de l'armée. Et rappelez-vous que cette décision répond à l'une des recommandations de l'Assemblée nationale. Et donc je pense que le collègue n'a pas tort lorsqu'il demande que nous puissions non seulement arrêter avec le débat, mais tant que les choses sont en train d'aller dans le sens de permettre à notre armée de monter en puissance.
Et puis, la situation est calme ce vendredi matin dans la ville de Lubumbashi. Les forces de sécurité sont visibles à certains endroits, dont la place de la Poste, où il y a des camions anti-émeutes et des squares Georges Arthur Forest, où sont positionnés plusieurs véhicules de la police. C'est pour respecter la décision des autorités interdisant la tenue de marches prévues par certains jeunes de l'UDPS et ceux d'Ensemble pour la République qui ne parlent pas le même langage. D'autres détails avec Jean Gandou.
Tout s'est réparti d'un spot balancé sur les réseaux sociaux où un membre de l'UDPS appelait ses partisans à descendre dans la rue pour exiger le départ des membres de Ensemble pour la République, parti cher à Moïse Katumbi, qui sont dans les institutions et au sein de l'Union sacrée de la Nation à cause de la dernière sortie médiatique du directeur de cabinet de Moïse Katumbi. Non content de ce qu'ils considèrent comme une provocation et manque de respect à leur chef, certains jeunes de Ensemble pour la République ont aussi fait recours aux mêmes réseaux sociaux pour appeler les leurs à prendre part à la marche de soutien à leur chef prévue pour ce vendredi. Les deux manifestations devait avoir le même point de départ, le même itinéraire et le même point de chute et devait commencer à la même heure. Face à cette situation, le ministre provincial de l'Intérieur a dans un communiqué interdit toute marche ce vendredi dans la ville de Lubumbashi. Et ce jeudi, le gouvernement de province a réuni les responsables provinciaux de ces deux formations politiques, les invitant à privilégier la paix. C'est ainsi que le représentant de l'UDPS a indiqué que l'appel à la marche a été lancé par quelqu'un qui n'a pas qualité et qui n'a pas été mandaté par le parti. Du côté de Ensemble pour la République, tout le monde a été appelé au cas calme et à cultiver la paix. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Okapi.
Le monde entier célèbre le 15 octobre de chaque année la Journée internationale de la femme rurale. Cette journée nous rappelle la contribution majeure de la femme rurale au développement économique, à la sécurité alimentaire et tant d'autres activités. Cependant, la vie de la femme rurale reste confrontée à plusieurs défis. D'après certaines sources, la femme rurale ne jouit pas complètement des produits de son champ. Esther Dalafina, reportage.
Dans la localité de Bakwaboa, secteur de Sango, plusieurs femmes rurales exploitent actuellement la terre pour les activités champêtres. Agnès Ndaya affirme qu'elle quitte sa maison très tôt le matin pour se rendre au champ.
Le matin, en tant que femme rurale, je prends mon bassin et mon panier, je me rends au champ pour semer, après sarcler et préparer le terrain. Je commence à 6h et je termine à 17h.
Pour Thérèse Kayoua, la femme ne jouit pas de la sueur de son front. Elle vend le produit de son champ à moins cher et achète du savon et du sucre à très cher.
Elle travaille, elle gagne peu, mais le peu qu'elle gagne, elle ne se réjouit pas avec ça. Elle vend ses choses à moins cher pour venir payer à plus cher quand la peine vient.
Au-delà du fait d'être agricultrice, la femme rurale assume également la responsabilité du bien-être de sa famille, tel qu'explique ici Alphonsine.
Lorsqu'elle revient du champ, elle doit préparer si les habits des enfants de son époux sont sales. Elle est obligée de les nettoyer, même si elle a accouché. Elle ne se repose pas, elle dort en rétale et se réveille à temps.
Face aux difficultés auxquelles la femme rurale est confrontée, Paul Moulumba souhaite que des programmes d'éducation soient organisés en sa faveur. Signalons que grâce à la femme rurale, certaines activités du secteur informel se portent bien dans la province du Kasaï oriental. Esther Ndalafina Mbujimayi, Radio Okapi.
Autre nouvelle, dans la province du Maniema, ces derniers jours, la prison centrale de Kasongo enregistre des cas de mort des détenus. Le jeudi 13 octobre, un prisonnier est mort de suite d'une diarrhée aiguë. Parmi les causes de ces multiples décès, les sources sur place évoquent notamment les mauvaises conditions de détention, la famine et le manque de soins médicaux de qualité. La société civile appelle les autorités compétentes à considérer l'urgence que représente la situation de la prison centrale de Kasongo. Florence Kizalunga revient sur ces dossiers dans ses reportages.
Ces nouveaux décès survenus le jeudi 13 octobre à partir de 16h locales s'ajoutent aux deux autres qui ont eu lieu dans l'intervalle de 2 mois dans cette prison. Les directeurs intérimaires de la prison parlent de la diarrhée aiguë qui ressemble à une épidémie qui fait rage dans cette prison. Zakwan Issa ajoute que deux autres prisonniers frappés par la même maladie continuent à souffrir dans cette maison carcérale. La nouvelle société civile congolaise décrit ces morts de plus. Maître Richard Saloum Loutipa.
Encore une mort enregistrée dans la prison centrale de Kasongo à la suite d'une diarrhée présentant les symptômes de la dysenterie. 3 morts dans l'intervalle de 2 mois et dont les 2 dernières pour les seuls mois d'octobre. C'est trop. Je pense que nous ne sommes pas la Vox Clemente in Desertum. Mais pour la 1e fois, nous lançons un SOS aux autorités politico-administratives et judiciaires. De voler aux cheveux de ces pensionnés abandonnés à la prison centrale de Kasongo. C'est une mort de trop et c'est inhumain de laisser sans subvention cette prison. C'est inhumain de laisser les pensionnaires de la prison centrale de Kasongo mourir comme des fourmis. C'est inhumain, madame, et c'est trop.
Déjà le matin de ce vendredi, la chef des zones de santé de Kasongo a fait un déplacement à cette prison pour voir l'état de santé de ces derniers. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Et puis, cette nouvelle, après la mort hier jeudi 13 octobre à Kinshasa, à l'âge de 78 ans de l'artiste musicien saxophoniste, patron des écuries VV, ancien président du conseil d'administration de la Sokoda et auteur-compositeur Verkis Kiamangana, les mélomanes et passionnés de la musique congolaise pleurent et rendent hommage en même temps à cette icône qui a traversé plusieurs générations. Le professeur Léon Tchambou, sociologue de la musique populaire, pleure un homme orchestre et expérimenté, mais aussi un saxophoniste au poumon d'acier qui a été pour beaucoup dans la création des orchestres comme Langa Langa Star, Victoria Eleison, Antichoc. Il est au téléphone de Jean-Marc Matwaki.
Au Gotha de la musique congolaise moderne, on citerait naturellement Verkis. À l'époque, on les appelait les trois mousquetaires. Donc, il y avait Franco, et Kaboulay, et Rochereau et Verkis. Et donc, c'est regrettable parce que, bon, c'est une personnalité aux dimensions multiples, à la fois artiste et comme un musicien, c'est-à-dire saxophoniste, à la fois entrepreneur industriel et culturel, qui a eu à contribuer de manière très remarquable à la promotion de la musique congolaise, quoi. Qui l'a suscité par la création d'orchestres tels que Kiam et peut-être tant d'autres qu'il a soutenu matériellement, financièrement, et aussi et par rapport aussi à sa technique instrumentale, hein, c'est-à-dire au saxo, quoi. Hein. Et donc je crois que au pays on compte Willy Mbembe qui a joué avec Kalejef, et il y a Mpopolo Wai et puis Vercus qui nous vient en première.
Actualité internationale.
Les artistes malgaches vont debout contre le ministère de la Culture. Jeudi, après 9 mois de non-paiement de leurs droits d'auteur, ils étaient 50 à dénoncer les traitements qui leur est réservé au cœur de la discorde de la gestion de l'OMDA, Office malgache du droit d'auteur, auquel 7000 artistes de l'île sont affiliés. Un office aujourd'hui sous tutelle du ministère de la Communication et de la Culture. Et puis, assaut du Capitole aux États-Unis, la commission d'enquête va citer Donald Trump à comparaître. Il sera de ce fait convoqué pour témoigner sous serment sur son rôle le 6 janvier 2021. C'est le principal résultat de la dernière audition publique de la commission spéciale de la Chambre qui s'est tenue ce jeudi 13 octobre. L'ancien président américain a réagi ouvertement dans la soirée.
L'invité.
Mise en œuvre du projet de 145 territoires, signature des contrats ici à Kinshasa entre la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles, CFEF, et les entreprises soumissionnaires. Pour en parler, nous recevrons dans cette édition du journal, comme invité, Alain Lungungu, coordonnateur national de cette structure. Il s'entretient ici avec Paul Matendo. Suivez.
Monsieur Alain Lungungu, bonjour.
Bonjour.
Cérémonie des signatures de contrats aujourd'hui avec les entreprises soumissionnaires. Quelle sera la prochaine étape ?
Ben, la prochaine étape, comme vous le savez, en exécution des différents contrats qui ont été signés, ça va être la mobilisation d'abord des garanties. Donc, c'est-à-dire chaque entreprise doit déposer une garantie bancaire de restitution de l'avance de 30% et mobiliser en chantier en exécution des garanties. Je pense que d'ici les 15-20 jours, ça sera fait et on pourra passer maintenant à la phase opérationnelle d'exécution de ces contrats.
Qu'est-ce que vous appelez exactement garantie ?
C'est-à-dire que c'est une contrepartie des ressources que nous allons mettre à disposition des entreprises. Nous payons, genre, c'est ce qu'on appelle une qui va être récupérée au fur et à mesure que les travaux vont être exécutés. Ça nous permet, en cas d'inexécution des travaux, de récupérer les ressources pour lesquelles les infrastructures physiques n'ont pas été construites.
Comment se fera le suivi de ces travaux à votre niveau ?
Comme vous le savez, les travaux s'exécutent au niveau des territoires des différentes provinces. Donc, aujourd'hui, la clé du suivi de la mise en œuvre doit se faire au niveau des territoires. Premièrement, nous avons recruté des missions de contrôle, qui vont suivre les travaux tant au niveau provincial qu'au niveau des différents territoires. Ensuite, nous devons faire jouer le mécanisme qui est prévu au niveau de la province, c'est-à-dire les différents gouverneurs devront prendre des arrêtés pour faire jouer, pour mettre en place le mécanisme institutionnel de suivi. La troisième étape, c'est que nous voulons associer le contrôle citoyen pour suivre les travaux, pour que nous ayons une approche duale de retour d'information du terrain.
Alors, les missions de contrôle, on peut supposer que ce sont des missions d'audit ?
Non, ce ne sont pas des missions d'audit, ce sont des missions qui nous assurent que les travaux sont exécutés conformément au de l'art, conformément au contrat, et que les factures que nous payons correspondent au taux d'exécution physique des différents travaux. Donc, ce que nous allons faire, c'est que ces entreprises, ces firmes plutôt, parce que pour le contrôle, on recrute des firmes de consultants, c'est que ces firmes soient à pied d'œuvre au niveau du chef-lieu de la province, au niveau du territoire et au niveau des différents sites à travers leurs délégués à pied d'œuvre qui vont suivre au quotidien les travaux.
Quel est le message que vous pouvez donner justement à ces entreprises ?
Le seul message que je peux donner, nous avons signé un contrat, il faut respecter le contrat. Et ceux qui connaissent un peu comment nous travaillons au niveau de la cellule d'exécution des financements en faveur des États fragiles savent que, premièrement, c'est avenant zéro, pas d'avenant. Deuxièmement, c'est que toute entreprise qui sera en retard d'approvisionnement de chantier se verra automatiquement retirer le contrat et nous ferons jouer les mécanismes prévus à cet effet au niveau de la garantie.
Les livrables, on peut les attendre quand ?
Normalement, les livrables, il est prévu que les travaux prennent 6 mois. Si vous comptez, aujourd'hui, nous sommes début octobre, normalement, au premier trimestre du mois de l'année 2023, hein, on devrait avoir toutes les infrastructures rendues. Les écoles primaires, les 360 écoles primaires, les 232 centres de santé, les 43 bâtiments administratifs.
Outre les centres de santé et les écoles primaires, quelles sont les autres infrastructures attendues ?
Comme il est prévu, la semaine prochaine, nous allons lancer les dernières études au niveau des provinces sur les voies de desserte agricole. Comme vous le savez, les voies de desserte agricole permettent de connecter les centres de production aux différents centres de commercialisation et aussi de transformation. Et l'exercice que nous allons faire à partir de la semaine prochaine, c'est de voir comment connecter, ne pas créer des îlots bien sûr, comment connecter ces voies de desserte agricole au corridor routier national qui existe au niveau de ces différentes provinces.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup à Radio Okapi.
Voilà, c'est la fin de cette édition mise en ondes par Mimi Kindou, coordonnée par Piro et la Meji, sous la supervision de Noëlla Luzitu Kabambi. Merci pour votre particulière attention.